bonsoir. Nous poursuivons notre série d'émissions « Dialogue entre Congolais » spécial Bénin. Ce soir, nous nous penchons sur la problématique de la maladie à virus Ebola dans cette partie du pays. Comment expliquer la persistance de cette maladie et comment la vaincre? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats David Grisley, il est coordonnateur des interventions d'urgence de l'ONU pour la lutte contre Ebola. Monsieur Grisley, bonsoir.
Bonsoir.
Abbé Aurélien Rukwata, responsable de la commission justice et paix du diocèse catholique de Beni-Butembo. Abbé Aurélien, bonsoir. Et Modeste Bakwanamaha, maire adjoint de la ville de Beni. Monsieur le maire, bonsoir. Merci aussi à vous, Béniciennes et Béniciens, qui êtes nombreux dans cette salle pour participer à cette émission. Applaudissez encore une fois pour vous-même, parce que cette émission vous concerne. Merci de nous suivre à Kinshasa sous la 103.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Province du Nord Kivu, Béni, depuis plus d'une année, la maladie à virus Ebola a été déclarée dans cette partie du pays. La barre des 2000 morts dues à cette épidémie a été franchie dans les provinces touchées par cette maladie. Une accalmie a été observée pendant plusieurs semaines, surtout jusqu'à fin 2019. Mais depuis le début de cette année, des nouveaux cas ont été enregistrés dans la ville et territoire et dans le territoire de Béni. Monsieur David Grisley, vous êtes coordonnateur des interventions d'urgence de l'ONU pour la lutte contre Ebola. Quelle est la situation à ce jour de cette épidémie dans Béni territoire et Béni ville?
Merci bien pour cette invitation. Pour répondre à votre question, je crois maintenant on voit que l'épidémie c'est presque à la fin. Donc il y avait un progrès important, positif, pendant les derniers mois. Et je crois qu'on peut clôturer, on peut faire finir avec cette épidémie dans les semaines à venir. Moi, je suis venu cette fois-ci à Béni pour voir de près la situation parce qu'il y a encore une chaîne seulement, de transmission qui reste dans l'ouest de Béni. Donc, je vais engager avec l'équipe ici pour voir ce qu'on peut faire pour, comme je disais, faire finir avec cette épidémie dans ces localités. Et je crois avec ça, on peut avoir la fin de l'épidémie en général. Donc, ça avance bien.
Malgré cette nouvelle chaîne de transmission, vous pensez que dans les semaines qui viennent, on mettra fin, on ne parlera plus d'Ebola dans cette partie du pays?
Ça, c'est un peu différent, parce que l'Ebola, on parle maintenant déjà du 10e épidémie de l'Ebola, donc ça peut réapparaître n'importe quand et n'importe où dans le pays. Donc on doit garder toujours un système de surveillance robuste pour signaler rapidement s'il y a encore une nouvelle épidémie. Ça, je crois que c'est très important. Le problème qu'on a eu ici, c'était qu'il a pris entre 3 et 4 mois entre le commencement de l'épidémie et l'annonce de cette épidémie en août. L'épidémie a commencé en avril 2018. On a annoncé l'épidémie en août, qui veut dire qu'il y avait une période de 3-4 mois où la transmission a circulé. On doit éviter ça, soit ici ou ailleurs dans le pays pour l'avenir.
Et que font concrètement les Nations Unies dans la lutte contre cette épidémie? Les Nations Unies font quoi concrètement pour lutter contre la maladie?
En fait, c'est une riposte multidimensionnelle qui est émanée par le gouvernement. On doit toujours dire ça, parce que je crois que l'expertise qu'on a dans ce pays est très, très connue, très importante. Donc, nous sommes là pour donner un appui à cette coordination pour la riposte.
Quel genre d'appui?
Beaucoup de choses sur le volet technique. On a les collègues de l'OMS qui sont là pour donner un appui technique, aussi un appui opérationnel sur le terrain. Nous avons l'UNICEF qui travaille surtout dans l'engagement communautaire, mais aussi un appui aux communautés affectées par l'Ebola. Nous avons aussi OIM qui donne un appui pour les points de contrôle, les points d'entrée au pays pour prévenir ou bien réduire le mouvement des personnes affectées par l'Ebola. Nous avons aussi la PAM qui donne la logistique pour ça, surtout des avions qui volent entre les hotspots, mais aussi de donner la nourriture aux familles affectées par l'Ebola. Je crois que ça c'est aussi très très important. Aussi le PNUD a joué un rôle surtout, et je crois maintenant le PNUD va commencer un rôle important pour la période de transition après Ebola. Donc ils ont déjà commencé ce travail. Donc plusieurs agences humanitaires sont impliquées, des ONG aussi sont très nombreuses qui sont aussi impliquées dans la riposte. Donc il y avait, je crois, une grande mobilisation d'appui. Aussi le MONUSCO a donné un appui important pendant toute cette période pour protéger ceux qui étaient impliqués dans la riposte. On peut aller dans les détails après, mais ça aussi était très important et l'engagement politique aussi faisait partie de ça.
Modeste Bakwanamaha, vous êtes maire adjoint de la ville de Beni. Ça fait plus d'une année qu'on parle du virus d'Ebola à Beni. Aujourd'hui, est-ce que cette maladie touche encore beaucoup des gens dans votre ville de Beni?
Merci beaucoup, madame. Nous sommes au 17e mois de la maladie à virus Ebola à Beni, donc plus d'une année. Et aujourd'hui, comme l'a si bien dit mon prédécesseur, nous sommes en train de chuter. Sur les 30 quartiers que compte la ville de Beni, aujourd'hui, on signale des cas dans plus ou moins 3 quartiers. Et nous sommes rassurés que nous sommes en train de chuter. Et les quelques cas qui apparaissent sont des contacts connus, suivis. Donc il n'y a pas assez de peur. Nous sommes très confiants que d'ici là, nous allons mettre fin à cette maladie. Mais là, nous continuons à demander à la population.
On a parlé dernièrement de nouveaux cas d'Ebola à Beni.
Si, ce sont des nouveaux cas, des contacts connus. Puisque depuis le 7, nous avons connu un décès, le 7 janvier, et c'est ce même cas-là qui est en train de multiplier des contacts. Les contacts du premier cas et qui est en train d'être suivi. Et parmi les contacts, il y a des cas confirmés. Nous n'avons pas peur puisque ce sont des personnes connues, suivies. Et nous continuons à encourager les personnes qui sont passées par des structures privées, par où sont passés ces malades, de nous aider à approcher nos équipes, les chefs de base et même les visiteurs qui viendraient de n'importe où. Quand ils sont dans la ville, nous voulons qu'ils soient repérés par les chefs de base, le relais communautaire, pour qu'ensemble nous suivions leur état de santé.
Mais comment vous expliquez, monsieur le maire, la persistance de cette maladie?
La maladie perdure ici suite à plusieurs paramètres, notamment l'insécurité causée par les ADEF, les maïmaï, les manifestations des populations. Par moment, quand il y a tuerie, les populations touchées par ces tueries manifestent et empêchent aux équipes de la riposte de travailler, de se mouvoir. Ils disent même, nous ne voulons pas voir le véhicule de la riposte, puisqu'on a tué. Donc, il y a plusieurs paramètres. Et à cela, il faut ajouter les structures privées qui n'observent pas les mesures d'hygiène dans leurs structures.
Au mois de novembre, il y a plusieurs centres de traitement qui ont été attaqués ici à Beni. Est-ce qu'on connaît l'identité de ces personnes qui ont attaqué ces centres?
Justement, ces personnes ont été identifiées par la justice. Ils sont en train d'être recherchés. Il y en a ceux qui sont déjà aux arrêts. Et nous pensons que le fait pour ces gens d'être arrêtés va aider aux autres de ne plus se comporter de cette façon. S'il y a tuerie dans la ville, qu'on laisse les équipes de la riposte libres. Pour Ebola, 2 jours sans travail, c'est déjà mauvais. Et quand les équipes de la riposte peuvent faire une semaine sans travailler, allez-vous dire que les contacts se sont multipliés et c'est ce qui fait qu'on revient à zéro à chaque fois qu'on veut finir la maladie. C'est comme ça que nous encourageons nos populations à ne pas s'attaquer aux équipes de la riposte, à permettre aux équipes de travailler librement au relais communautaire. Les relais communautaires ont besoin des informations dans les familles.
Abbé Aurélien Roux-Kouattara, responsable de la commission justice et paix du diocèse catholique de Beni-Boutembo. Comment l'Église catholique est-elle impliquée dans la lutte contre Ebola à Beni, Beni-Boutembo?
Merci madame pour m'inviter à cette émission. Et d'entrée de jeu d'abord, je voudrais saluer la mémoire des victimes et présenter toute ma compassion, non seulement aux victimes, mais aussi à leurs familles. Plus de 3000 cas, dont 2000 décès, c'est beaucoup, c'est trop. Donc je salue cette mémoire et je m'incline. L'Église catholique, comme vous le savez, a pour mission d'être comme la sentinelle. La sentinelle qui veille et qui attire quand le danger est là, qui informe, qui alerte pour dire il y a danger. Et donc, dans ce sens-là, l'Église, depuis que la maladie est apparue, en août 2018, l'évêque, Monseigneur Sikoli Paluku Melchisedek, évêque de Boutembo-Beni, a été, sinon le premier, en tout cas parmi les premiers, à alerter la population pour l'inviter à respecter les mesures d'hygiène qui seront données par les spécialistes, dont tous les gens de santé. Et lui-même s'est impliqué pour pouvoir conscientiser sa population à pouvoir suivre scrupuleusement ces mesures-là, dans le sens de dire « cela va nous aider à endiguer la maladie ». Et il l'a fait. Et il continue encore à le faire.
Est-ce que la population a pris en compte tous ces conseils, cette sensibilisation faite par l'Église catholique? Parce qu'on sait qu'à un moment, la population de Beni ne croyait pas que cette maladie existait.
Tout à fait. Nous n'allons pas dire que les choses ont roulé comme sur des roulettes. Ça n'a pas été facile. Nous avons même été pris pour cible d'être associés à ceux-là qui tiraient profit de cette maladie. Cela n'empêche que certains, sinon la plupart de nos populations, ont pu suivre les recommandations faites par l'Église à travers la bouche de son pasteur. Certains ont suivi parce qu'ils nous ont vus nous-mêmes engagés. L'évêque a sensibilisé non seulement ses agents pastoraux, ses collaborateurs, mais aussi tous les fidèles laïcs et il a disponibilisé tous ses services, à commencer par la Caritas, les bureaux diocésains des œuvres médicales, la commission justice et paix, où je travaille moi-même, et d'autres services à s'impliquer sans condition dans la lutte contre cette maladie à virus Ebola. Et cela a été fait. Mais il y a eu des gens, justement, manipulés ou je ne sais comment, qui ont opposé de la résistance à cette sensibilisation de l'évêque. Heureusement qu'ils n'ont pas été très nombreux. Et puis, au fil du jour, ces gens sont en train d'être gagnés à la cause. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire. Il faut quand même souligner une chose qui me vient à l'esprit. Quand Ebola est arrivé, nous avions déjà l'insécurité avec laquelle nous vivions. Mais la population a constaté comme si on s'est beaucoup empressé vers la lutte contre Ebola plus que contre l'insécurité. Et cela a choqué les gens. Ça a même été une des causes de la résistance de la population qui a trouvé dans cet engouement vers la lutte contre Ebola comme autre chose du business. Parce qu'on ne s'est pas occupé avec autant d'empressement pour lutter contre l'insécurité qu'on l'a fait contre Ebola. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais il fallait le faire en tenant compte aussi de l'autre phénomène. Parce que les deux, l'insécurité récurrente et la maladie à virus Ebola, conduisaient aux mêmes effets. Il y avait perte en vie humaine abondante, il y avait précarité dans la vie des gens, insécurité, paupérisation de la population, etc. etc.
Merci Abbé Aurélien Roux-Kouattara. On va prendre une première série des questions dans les publics. Donna, il faut promener le micro, on va prendre monsieur devant.
Merci, moi c'est Samuel Modera, je suis une population bénitienne. Aujourd'hui, nous pensons que ce sont les relais communautaires qui donnent des vraies données pour qu'on puisse publier au niveau national. Moi, la question que je peux poser à Monsieur David, d'où viennent les données pour dans les relais communautaires sont en grève, je peux le dire, et ne travaillent pas, nous sommes des populations, nous voyons ce qui... C'est pas ce sur terrain.
Donc les données qu'on publie viennent d'où alors que les relais communautaires sont en grève, c'est eux qui sont proches de la population. C'est ça votre question.
C'est ça ma question.
Une autre question, c'était
j'aurais voulu dire le maire de la ville nous a dit que dans 30 quartiers que compte la ville de Ben, ces 3 quartiers, il y a les camps de la maladie à virus Ebola. Moi j'estime que même ces données là nous en doutons. Parce que nous savons la réalité et nous voulons qu'on puisse nous dire que précédemment, le docteur Mouyembete ici, il nous a promis qu'à l'issue même des 3 mois, nous aurons mettre fin à cette maladie. alors que nous sommes au-delà des 3 mois. Et nous voyons sur des badges les gens qui travaillent pour cette maladie. Ils ont un contrat même au-delà des 6 mois. Là, c'est une utopie directe que nous pouvons dire. Merci.
Alors, on va prendre une deuxième question. Soyez, s'il vous plaît, bref et concis. Et soyez clair lorsque vous posez vos questions.
Merci beaucoup. C'est Maki Barak, étudiant à la faculté des droits à l'université Semliki de Beni. Ma première question s'adresse à M. David Gressley. Par rapport à ce que notre précédent auditeur venait de dire, nous avons constaté au sein même de l'équipe de riposte, il y a beaucoup de désordres parce que les gens là ne s'attendent pas. Il y a par exemple le paiement tardif de premières personnes qui sont affectées sur le terrain pour sensibiliser les gens. Et lorsque ces gens parviennent à ne pas être payés, ils ne réussissent également pas à bien sensibiliser. C'est ainsi qu'on constate qu'il y a beaucoup de retournements de situation. Également, la question maintenant au maire de Ville de Beni, il nous parle qu'il y a certaines personnes qui ont été arrêtées, celles qui ont été impliquées dans l'incendie de base de la riposte. Maintenant, j'ai compris que parmi nos autorités, on se base surtout sur les cas répressifs. Lorsqu'il y a des manifestations, on réprime les manifestations, mais on ne se soucie pas de la sensibilisation de la population. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que les autorités pensent entre Ebola et l'insécurité? Quelle est la priorité des autorités? Parce qu'on a constaté plus que les autorités se sont basées sur les cas d'Ebola, oubliant la question de la sécurité. Merci.
Merci. Dernière question de la première série.
C'est Mouindo Kalumba Germain, étudiant à l'IES Beni. Ma question s'adresse à Gressley David. À Ville de Beni, la maladie a diminué de prévalence, bien sûr. Néanmoins, nous nous sommes rendus compte que les nouveaux cas, bien qu'ils soient moins nombreux, proviennent du territoire. La question se pose maintenant. Quelles sont les stratégies mises en œuvre pour empêcher des probables contacts à Ville? Surtout au niveau des différents points d'entrée. Merci.
On commence par vous, Monsieur David Gressley.
Ok, merci bien. Peut-être avant de répondre aux questions déjà posées, je dois aussi souligner le fait que en avril-mai, on avait par semaine à peu près 120-125 cas par semaine. Les derniers 7 jours, on avait 4 cas. Ça veut dire qu'il y avait un progrès important. Donc, comme on dit que nous sommes presque à la fin, je crois, c'est vrai. Pour répondre à la question des relais communautaires, je crois, à mon avis, parce que j'ai commencé à la fin du mois de mai 2019. Il y avait certains problèmes dans la riposte. C'est pourquoi, l'une des raisons pourquoi j'étais nommé. Donc, et en fait, les paiements tardifs étaient l'un des problèmes importants à l'époque qui a provoqué même des manifestations, des grèves, etc. Ce que nous avons vu, et surtout après les événements de Beni, quand il y avait un départ important des personnes, soit étrangers, soit des personnes qui venaient d'ailleurs, pas d'ici à Beni, nous avons constaté que la riposte a continué avec le personnel local. Il n'y avait pas vraiment une rupture dans la riposte. Pour moi, ça c'était un fait important. C'était les personnes ici à Beni, les personnes qui viennent de Beni ou Itcha ailleurs, qui ont vraiment continué ce travail, même pendant les manifestations et les problèmes qu'on a eus. Et c'est pourquoi on n'a pas vu une explosion des cas après. Donc ça veut dire que la compétence existe ici. Dans les communautés. Donc, pour moi, c'est important qu'on continue de renforcer cette capacité chez les relais communautaires, mais dans toutes les compétences, pour assurer une bonne surveillance après Ebola, pour un bon appui aux survivants après Ebola. Et on a déjà vu une diminution du nombre des personnes qui viennent soit à l'étranger, soit de Kinshasa et ailleurs. Et on a maintenant un programme de localisation du personnel. Donc on comprend que ça peut provoquer des préoccupations par certaines si on amène beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger. Et je crois, je vais terminer rapidement.
Non, je vais juste éclaircir la question de l'auditeur. Sa préoccupation, c'est de savoir d'où viennent les informations que l'on publie alors que les relais communautaires ne travaillent plus et sont en grève. Ce sont ces relais communautaires qui récoltaient des données sur terrain.
Mais ça continue quand même. Le travail continue quand même. Les paiements, c'était un problème. Et moi, j'ai beaucoup poussé que tout le monde soit payé avant la fête, la période de fête. Et pour la plupart, ça a été fait. Il y en a certaines qui manquaient leur paiement de décembre, mais je crois que ça, c'est maintenant en cours de paiement. Pour moi, ça, c'est un aspect très important qu'on paye les personnes régulièrement. Je sais que c'est pas exactement votre question, mais si on paye dans le temps prévu, on va avoir un bon résultat. Nous avons maintenant établi un système où, en utilisant une base de données qui peut facilement créer la liste de paiements par mois, qui va aussi faciliter ce travail. Donc, pour moi, ce qui est important est d'assurer la continuité des paiement pour les personnes qui continuent de travailler, de poursuivre cette politique de localisation du personnel, parce que je crois que c'est ça qui sera durable, et éviter les grèves dont vous avez mentionné, et on peut le faire si on paye dans le temps. Donc pour moi, ça c'est la solution pour le problème. Et je veux vraiment dire que j'ai été impressionné par le fait, malgré les événements de novembre-décembre, le riposte a continué. Et c'était fait par les personnes locales ici. Donc je crois, pour moi, ça c'est important, pas pour seulement maintenant, mais aussi pour l'avenir. Et on doit renforcer cette capacité. Et ça doit rester en politique pour toujours, en fait.
Monsieur le maire.
Oui, madame.
Vous avez aussi deux questions.
Oui, il y a la question de l'auditeur qui dit que l'autorité ne se soucie pas de la population sur le plan maladie Ebola, sur le plan sécurité. Je crois que c'est sa position, je la lui concède, tout en disant que et pour Ebola et pour les sécurités, il n'y a personne qui peut l'amener. On ne peut pas amener l'affaire Ebola sans la population, sans la communauté. On ne peut pas assurer la sécurité sans la population. C'est comme ça que les FARDC, les autorités, ont besoin de l'engagement communautaire pour mettre fin à cette maladie. Et cela est à court. Si on est arrivé à la baisse des cas, c'est l'accompagnement de la population, de la communauté, qui fait qu'on arrive à ce beau résultat qui évolue. Et concernant les sécurités, nous, on ne dort pas, jour et nuit, dans cette mission-là, d'amener la paix pour ce qui nous concerne. Mais ne demandez pas au maire d'aller à Madina pour chercher les EDF. Il y a l'armée qui est engagée. Et le chef de l'État fait tout pour que la paix revienne. Et nous qui le représentons à la base, nous soutenons toutes les actions. Mais vous savez qu'à Beni, les FARDC ont déjà été attaqués plus de 30 fois par les Maï-Maï. Et nous demandons à la population de se désolidariser des ADF. Les Maï-Maï sont des Congolais, nous leur demandons de revenir à la raison. Et les populations qui soutiendraient les ADF, nous leur demandons de se désolidariser. C'est de cette façon que l'autorité saura vous procurer la paix. C'est de cette façon que l'armée pourra aller de succès à succès. Mais quand l'armée avance, 30 attaques des Maï-Maï. Mais qui est notre ennemi? C'est l'ADF. Que doit faire l'autorité? C'est demander à la population de soutenir l'armée, de se désolidariser à nos frères Maï-Maï, d'opter pour la raison, la voie de la raison plutôt. Revenant à la question des relais communautaires, d'où viennent les données? Moi, je me réunis chaque soir à 16h avec les équipes de la Riposte. Le relais communautaire et d'autres intervenants ont vu leur nombre être réduit. Car Ebola, nous avons compté 29 jours avant janvier. Et quand Ebola s'est bien comporté, quand nous avons commencé à compter, il n'y avait plus assez d'activités. La Riposte a résolu de réduire ses équipes, réduire les relais communautaires ont été réduits. Même les véhicules engagés, réduits. Tous les moyens réduits. Estimant que nous sommes en train de chuter. C'est la réapparition de la maladie qui nous a surpris. Et là, c'est maîtrisé puisque nous connaissons les personnes contacts. Dire que les données qui sont en train d'être remontées à la hiérarchie sont erronées, faux et archi-faux. Nous avons les chefs de base qui sont dans ce que nous appelons la veille communautaire, qui savent identifier le malade est arrivé d'où il est domicilié, où il va faire combien de jours ou à Beni, comment il est en train de se réveiller. Les chefs de base font ce travail dans tous les quartiers et chaque jour, ils remontent les cas. Les malades, il y en a combien sur chaque avenue? Et les chefs remontent. Et le relais communautaire remonte, ceux-là qui ont été retenus. Donc,
je crois que les données ne sont pas erronées.
Les données sont correctes, madame, et sont vraiment légales.
Merci, monsieur le maire. Abbé Aurélien Rukwata, je rappelle que vous êtes responsable de la commission justice et paix du diocèse catholique de Beni-Boutembo. Comment vaincre efficacement Ebola?
Merci pour la question, mais moi je dirais la réponse à deux niveaux. Tout d'abord, il faut que l'État, l'autorité de l'État soit restaurée effectivement, pas seulement en théorie. Je remercie les opérations en cours, mais il faut encore que cela soit intensifié et que tous les services de l'État, y compris la justice, soient restaurés pour pouvoir remettre l'État dans ses obligations régaliennes d'assurer sa mission. Les groupes armés qui pillent, qui gênent les gens, les marches, tout ça, ça connote quelque part de la précarité, de la fragilité de l'État. Je ne dis pas qu'on ne fait rien, on est en train de faire quelque chose, j'encourage cela et je veux que cela aille vite et qu'on arrive au rétablissement de l'autorité de l'État sur toute la région, pourquoi pas dans tous les pays. Ça c'est de un. De deux, je voudrais quand même qu'on puisse accentuer la dynamique communautaire. Parce que si la première phase avait échoué, c'est qu'on sentait que les choses venaient d'en haut, des bureaux. C'est quand on a inversé cette démarche en associant la communauté locale qu'on est en train de récolter ces résultats. Et je veux qu'on puisse accentuer ça. Je serais indigné de voir que ceux qui travaillent ne sont pas payés, pendant que ceux qui sont dans des bureaux climatisés sont super payés. Ce serait anormal. Je ne dis pas que c'est ça, mais il faut qu'on y veille. Je voudrais là souligner l'aspect des cellules d'animation communautaire qu'on est en train de mettre en place. Le maire y a fait un peu allusion. Il faut accentuer cela. Parce que on ne peut pas vaincre Ebola sans la responsabilité de tout le monde. Il faut se protéger pour protéger tout le monde. Nous devons tous être impliqués. Et je pense que cet aspect-là doit être beaucoup plus souligné, pas seulement en théorie, mais aussi effectivement, et qu'on ne sente pas qu'il y a des favorisés d'un côté et des défavorisés de l'autre, mais que tous, en s'impliquant, on récolte le fruit de ce qu'on a fait. Donc j'insiste sur deux éléments, l'autorité de l'État et la dynamique communautaire qu'on doit bien soigner, bien surveiller.
Bon, il faut impliquer la communauté. Monsieur David Grisley, aujourd'hui, la coordination de la Riposte se trouve à Goma. La maladie, c'est Beni, Boutembo, Mangina, Biakato. Est-ce que cela n'est pas une des causes de la résurgence de cette maladie, le fait d'éloigner la coordination?
On peut en discuter, mais la réalité est que la coordination se trouve maintenant à Goma. Mais ça demande qu'on fasse les voyages sur le train souvent. Moi, je suis souvent sur le train. Et on sait aussi que cette épidémie bouge. Les hotspots étaient d'abord à Mangina, après Beni, après Butembo, après Mangina, Beni, Mandima, je peux continuer comme ça, Mombasa. Donc ça bouge. Donc pour moi, c'est pas grave s'il y a une coordination à Goma, mais ce qu'il faut avoir et ce qui manquait il y a quelques mois, c'est une présence un peu partout dans les zones affectées. Donc pour éviter la chasse de ce virus, et ça c'était l'un des problèmes il y a quelques mois. Maintenant, on a des équipes un peu partout qui sont là pour faire le contrôle, donc comme c'était mentionné ici pour la sous-coordination de Beni, mais ça existe à Butembo, ça existe à Mombasa, ça existe à Biakato, ça existe à Mangina maintenant. Et je crois que c'est ça l'aspect le plus important. Et la décentralisation qui a été introduite aussi à partir de Goma jusqu'à la sous-coordination est aussi important pour avoir un succès. Et je voudrais renforcer l'idée que c'est l'appropriation communautaire qui est fondamentale. Et je vois ça déjà sur le terrain. Le progrès est évident, il est clair, et je crois, comme je disais, nous sommes à la fin, mais on doit maintenant réfléchir qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir de cette épidémie. Et j'espère bien qu'on va en discuter.
Justement, on va poser une question sur ce qu'on doit faire pour l'avenir, mais entre-temps, une certaine opinion estime que Ebola est devenu un vrai business, M. Grizzly.
Oui, mais je ne suis pas businessman, donc c'était peut-être pour les autres. Mais je crois, en fait, il y avait aussi dans le financement des leçons à tirer pour mieux utiliser les ressources. Depuis que j'ai commencé mon travail, j'ai entendu parler de cet Ebola business. Donc je crois qu'on doit étudier pourquoi on a utilisé ce terme, si on a bien utilisé les ressources. Et pour moi, et comme je disais, déjà dit plusieurs fois, le fait qu'on a décidé de localiser le personnel est l'une des leçons qui venait de cette réflexion sur l'Ebola business. Le fait qu'on a loué beaucoup de voitures au début, mais maintenant on loue des motos, ça aussi change les choses. Donc on a appris quelques leçons qu'on nous sommes en train de faire la mise en œuvre qui va, je crois, atténuer ce problème de Ebola business.
On va prendre trois dernières questions.
Dadi Yazor Nyamusisi, je suis en cadre du Parlement d'enfants. Alors, j'ai une question adressée à l'autorité, au maire. Visiblement, il y a Ebola qui est en train de finir et il y a les guéris d'Ebola qui sont encore dans la communauté et qui, par un mauvais comportement, peut encore faire à ce que Ebola retourne dans la ville. Alors, quelles sont les stratégies que les gouvernements congolais, en collaboration avec les acteurs humanitaires qui œuvrent actuellement dans la riposte, sont en train de mettre en place pour que ces guéris aient un encadrement aussi spécial afin d'éviter les retours probables de la maladie par un mauvais comportement qui peut manifester. Merci.
C'est Dalila Hassan. Je suis aussi membre de la population de la ville de Beni. Ma question s'adresse à M. David. M. David, est-ce que vous pouvez nous identifier vraiment si l'Ebola que nous vivons en Beni, c'est quelle sorte d'Ebola? Parce que dans les années passées, nous avions vécu l'Ebola de Sierra Leone. Ce n'était pas comme l'Ebola que nous sommes en train de vivre à Beni. Et c'est pour cela qu'il y a des résistances dans la population de la ville de Beni. Nous avons pensé que Ebola, c'est Ebola business suite à cela. Les agents de la riposte, ils ont pris cette maladie-là comme quelque chose là de trop facile, parce que nous, quand on entendait Ebola de Sierra Leone, on avait peur même de cette maladie là. Est-ce qu'il peut nous identifier si c'est quelle sorte d'Ebola que nous sommes en train de vivre ici à Beni? Merci.
Voilà, moi c'est Jean Ali. Je voulais poser ma question à Monsieur le maire et à Monsieur David. Monsieur le maire, quand vous avez introduit quelque part, vous allez parler, beaucoup de cas sont trouvés souvent dans des hôpitaux privés, des structures privées. Alors, ma question c'est si, vous en tant qu'autorité, qu'est-ce que vous attendez pour fermer ces hôpitaux qui nous amènent toujours des cas confirmés? à M. David, la population de Béni est en train de vous écouter à ce moment. Qu'est-ce que cette population doit mettre en tête par la présence de M. David à Béni? Et juste nous préciser les mécanismes que vous allez mettre en place afin que cette maladie puisse évacuer notre ville.
Merci. On commence par M. le maire.
Merci beaucoup, madame.
Il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc vous allez être bref dans vos réponses.
Merci beaucoup. Les guéris constituent un danger, il dit bien ça. Je voudrais vous rassurer que les guéris sont organisés dans une structure, ils ont un président, ils ont un comité, et chaque semaine, ils se réunissent, on leur donne le mode de vie, comment ils doivent se conduire dans la société, dans la communauté. Donc à ce point-là, n'ayez pas peur, ils sont sensibilisés, ils savent quels sont les actes que eux guéris peuvent poser et quels sont les autres actes qu'ils ne peuvent pas poser. Autour des structures privées qui posent problème, c'est vrai, il y en a dans la cité, et les structures intégrées en elles seules ne savent pas soigner tous les malades dans la ville. C'est comme ça que ces structures-là sont capacitées pour qu'elles aussi prennent en charge le malade. Pas les malades d'Ebola, les malades. On demande à ces structures de collaborer avec les équipes de la riposte. Il y en a celles qui collaborent. Comme elles font du business, ces structures-là, ce n'est pas seulement du social. Ils ne savent pas laisser partir un malade au CT pour les examens. Il va dire, mais qui va me payer si je libère l'homme? C'est un mauvais comportement. Il y en a d'autres qui ne sont pas vaccinés dans ces structures-là. Et nous, nous allons veiller pour leur faire voir les dangers qu'il y a pour garder le malade, les dangers qu'il y a pour eux, les prestataires de ces structures-là, de ne pas se faire vacciner. Il y en a ceux-là que nous perdons par imprudence, par manque d'hygiène dans leurs structures. Donc, arriver à fermer, c'est la dernière mauvaise mesure. Mais nous passons qu'avec la sensibilisation, certaines structures se comportent très bien.
Et pour celles qui ne se comportent pas très
bien, on ferme. Même la population décide de ne pas les fréquenter. Je connais les structures qui sont fermées par la population elle-même, que monsieur ne soigne plus. Nous constatons que vous êtes un danger public. Et l'autorité, avec l'appréciation du médecin chef de zone et les équipes de la riposte, ne vous en faites pas, mais au lieu de la fermer,
merci,
rassurez-vous.
Merci, Monsieur le maire, David Grisley. Deux questions qu'on vous a posées. La première, c'est quels sont les mécanismes mis en place pour éradiquer cette maladie? Et l'autre question, c'est sur l'identification même de l'Ebola à Béni. Quel type d'Ebola?
En fait, j'ai déjà vécu 4 épidémies d'Ebola. Une au Mali et 3 ici au Congo. Pour la plupart, 3 parmi les 4, le nombre de victimes était très petit. Le plus grand était en Bandaka, où il y avait une cinquantaine de victimes. Ce qui était important pour les 3, c'était une réponse rapide. Ici, le problème était qu'il y avait une circulation, transmission pendant 4 mois sans être détecté. C'était ça qui a fait la différence cette fois-ci. Et ça veut dire qu'il y avait un problème structurel dans le système de santé. Et ça, je crois, revient un peu aux questions qu'est-ce qu'on va faire après. Donc, à mon avis, pour éviter ça, soit ici ou bien ailleurs dans le pays, il faut faire plusieurs choses. D'abord, pour ici, c'est nécessaire de continuer de donner un programme d'appui pour les guéris. Ça, c'est important. Soit pour les soins médicaux, soit pour le psychosocial, soit pour la lutte contre la stigmatisation, etc. Deuxième chose, une surveillance importante. Ça doit être durable en cas de besoin. Parce qu'on peut avoir une transmission à travers un survivant, ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive. Mais on peut avoir une nouvelle épidémie. Ça peut arriver aussi. Donc, on doit avoir ce système de surveillance. Troisièmement, oui, on sait que cette zone a été gravement affectée par cette épidémie, qu'il y avait un impact négatif sur tous les services essentiels, pas seulement la santé, mais aussi l'éducation, nutrition, etc. Donc, on doit, à mon avis, avoir un programme qui aide à renforcer ces services et de donner un appui à pas seulement à court terme pour les communautés, mais à long terme. Quatrièmement, je crois que le problème de conflit existe toujours ici. On doit chercher des solutions pour ça, avec un programme de réconciliation et stabilisation qui va réduire cet aspect. Et le cinquième volet pour moi, c'est la réforme structurelle pour le système de santé qui va éviter aussi les mêmes problèmes qu'on a vus ici, qui a permis la transmission à continuer sans arrêt pendant 4 mois. C'est ça qu'on doit éviter. Donc, il n'y avait pas de différence entre l'Ebola ici et ce qu'on a vu ailleurs dans le pays. C'est essentiellement le même virus. Il y a parfois des petites différences dans le ADN, mais c'est essentiellement le même virus. C'est plutôt un problème structurel.
Aurélien Rukwata, nous sommes à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pensez des propositions faites par David Grisly? Et puis, quel message vous lancez à la population des Béni qui nous suit en ce moment par rapport à cette épidémie d'Ebola?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que David a dit par rapport à la surveillance qu'on doit maintenir. Ça, c'est tout à fait recommandable. Mais il faudrait aussi qu'il se penche sur la correction des imperfections internes au système, avec ceux-là qui interviennent comme personnel par rapport à certaines choses qu'on accentue ça. Je voudrais ajouter un élément sur, il y a beaucoup d'orphelins qui viennent de là. Il y a des gens traumatisés qui viennent de là. Qu'est-ce qu'on va en faire? La zone est déjà assez frustrée par rapport à ça. Il faudrait aussi qu'on envisage des choses pour quand même s'occuper de ces victimes-là qui sont de plus en plus nombreuses. Enfin, j'insiste sur l'appropriation communautaire. Nous devons veiller à ce que tout le monde puisse s'impliquer et qu'on évite tous les soupçons qui peuvent naître pour briser cette appropriation communautaire.
Merci Abbé Aurélien. Monsieur le maire.
Je voudrais encourager les partenaires qui ont travaillé dans des conditions difficiles à Béni. Nous les encourageons d'aller de l'avant pour qu'on finisse ensemble Ebola. Et nous voulons que la population continue à appuyer les équipes de la riposte sur terrain en dénonçant les visiteurs, les malades et en se faisant vacciner pour qu'ensemble on mette fin à cette maladie. Et c'est de cette façon-là que nous allons passer à autre chose.
Alors, une dernière petite question, monsieur le maire. Oui, nous apprenons que dans certaines zones, les centres de traitement sont sécurisés par les Maïmaï. Est-ce que vous confirmez cette information?
Ce n'est pas vrai, madame. Les Maïmaï, on les aborde, on échange avec eux. Il se faut vacciner, ils collaborent.
Merci, monsieur le maire. Monsieur Grisly, votre conclusion.
Merci bien. Je crois que c'était très intéressant, cette discussion. Je crois qu'on, d'abord, on doit continuer. Parce que même avec la fin de cette épidémie, on doit continuer cet engagement avec la population. Et je suis tout à fait d'accord avec l'importance de l'appropriation communautaire. Donc on doit continuer de travailler dans ce sens. On doit chercher d'autres moyens pour donner un appui aux victimes de cette épidémie. Ce n'est pas seulement les soins médicaux qu'il faut. Il y a un aspect psychosocial, il y a, comme je disais, le problème de stigmatisation, mais aussi les moyens pour vivre est aussi important. Donc on doit bien réfléchir et je prends note de tout ça. On a beaucoup de boulot à faire après la fin de l'épidémie, c'est ce que je veux dire, mais nous allons rester engagés pour cette période après.
Merci David Grisly. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, chers Béniciennes et Béniciens, d'avoir assisté et participé à cette émission. C'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. Merci à toute la grande équipe de Radio Okapi, Kinshasa et Béni. Merci au chef de bureau de Béni pour le bon déroulement de cette émission ici à Béni. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.